Bonjour à tous, nous allons nous lever pour prier pour notre sœur Natalia qui est souffrante. Seigneur Jésus, tu étends ta main sur notre sœur et tu lui permets de retrouver une tension normale. Au nom du Seigneur Jésus, nous résistons à tout esprit de maladie qui pourrait la tourmenter et nous lions cet esprit-là et nous le chassons hors de ce corps, lui ordonnons maintenant, lui adjurons au nom de Jésus de laisser notre sœur tranquille afin qu'elle se trouve bien. Merci Seigneur, parce que tout à l'heure quand nous allons rentrer, elle sera sur pied en forme. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Bien. Nous savons que dans ce monde, il s'est glissé beaucoup de faux prophètes. Et vous savez qu'en général, on les appelle les prophètes de l'abondance. J'en ai vu pas mal en Afrique. Ça pullule. Et je trouve leur message lamentable. Et ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que des foules de gens les suivent. Ces faux prophètes de l'abondance se basent évidemment sur certains textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais ce matin, je voudrais vous enseigner en vérité le message de l'abondance selon les Écritures. J'en ai marre d'entendre toutes ces bêtises racontées. Et maintenant, puisque nous avons la possibilité d'être écoutés en Afrique, eh bien, je prie pour que mes frères et sœurs africains puissent entendre ce message et le propagent, afin de retrouver un équilibre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens 2, 9. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir.
Amen.
Dieu bénisse. Alors, en paraphrasant, autrement dit, écoutez bien, il est dit là, en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous vous trouvez associé à sa plénitude, lui qui est la tête de toute principauté, de toute puissance. En Jésus habite, pas habité, habité bien sûr, mais habite maintenant corporellement et nous sommes son corps. Amen. En Jésus-Christ habite aujourd'hui dans son Église, dans son épouse fidèle, toute la plénitude de la divinité, et vous vous trouvez, vous qui êtes membre du corps de Christ, pas membre d'une religion, mais membre du corps de Christ, vous vous trouvez associé à sa plénitude, lui est la tête de toute principauté, de toute puissance. Ouh. Voilà ce que c'est la vie abondante. C'est la plénitude de la divinité. C'est être, c'est avoir tout pleinement en Jésus-Christ. Jésus disait, Jean 10, 10, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance, dans d'autres versions, surabondance. » Jésus offre aux siens une vie, une façon de vivre, une qualité de vie sur la terre différente de celle qui se trouve dans le monde. D'ailleurs, dans le monde, il y a des gens qui ont une vie abondante. Oui, peut-être matérielle, mais allez fouiller un petit peu, allez gratter un petit peu, et vous allez voir s'ils ont vraiment la vie abondante. Ils ont peut-être l'argent en abondance, mais l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Jésus est le bon berger. Il nous a sauvés pour venir vivre en nous pleinement, et de l'intérieur, il nous aide à orienter notre vie. Le message entier de Jésus forme un tout cohérent. Si vous prenez que les passages qui parlent d'argent, vous allez penser que Jésus est un banquier. Parce qu'il parle beaucoup d'argent. Plus d'argent que du ciel et de l'enfer. Ce qui fait la joie de ces faux prophètes de l'abondance. Mais il faut prendre le message entier. Il forme un tout cohérent. Tout est centré sur l'amour. Tout est orienté vers la vie. Tout est orienté vers la liberté. Tout ce que Jésus enseigne, c'est toujours pratique. C'est pratique. Il nous explique comment nous avons à nous positionner justement par rapport vis-à-vis en face de l'argent, face aussi aux inquiétudes, aux prises de risques dans la vie. Son enseignement est pratique, il nous apprend à nous positionner face à l'amour, au pardon, à l'humilité, au discernement, à la persévérance, au lâcher prise, à l'épreuve, à la joie, etc., etc. Son message est complet. La vie abondante, ce n'est pas seulement l'argent. Jésus nous apprend comment développer nos talents, nos dons naturels, nos dons surnaturels. Il nous apprend à dépasser nos peurs, à surmonter la culpabilité, à affirmer qui nous sommes. Bref, à vivre de ses valeurs, à vivre ses valeurs, à avoir confiance pour réaliser une belle vie tout en résistant dans les tempêtes. Et parce que voilà, la vie abondante, c'est aussi les tempêtes abondantes. Et c'est la vie. Alors, être enseigné, c'est une chose, et mettre en pratique l'enseignement, c'est une autre chose. Mais c'est la pratique de l'enseignement qui assure la plénitude de la vie. Ce n'est pas l'assiduité aux réunions, d'écouter, même de comprendre. Vous savez, si Jésus, même Jésus, s'il était resté chez lui assis avec toute sa connaissance, il n'aurait rien fait, mais rien du tout. C'est en pratiquant, c'est en travaillant, c'est en agissant que sa vie est devenue pleine de hauts faits, pleine de paroles extraordinaires, pleine d'actes extraordinaires. Par exemple, cette semaine, je parlais avec une chrétienne qui est venue nous visiter au château. Elle me disait être dégoûtée des relations avec les chrétiens, les églises. Vous savez, si vous n'avez que des relations superficielles avec des chrétiens, une ou deux heures par semaine assis en randonnant dans une église, mais c'est sûr que ça finira par être lassant, ça sera comme une eau qui croupit. Et c'est pourquoi, pour aimer en vérité, eh bien, Jésus vivait en communauté avec les siens. Alors, c'est vrai que c'était plus astreignant pour Jésus de vivre en communauté avec les siens que de vivre tout seul, et puis paraître de temps en temps pour faire un beau discours, et puis de redisparaître encore. C'était casse-pied de se traîner ses boulets toute la journée. Qu'est-ce qu'il disait Jésus ? Mais combien de temps je vais vous supporter encore ? Heureusement, il y a la croix bientôt. Non, il ne disait pas ça, mais bon. Il veut dire, mais combien de temps j'en ai marre ? C'est ça que ça voulait dire. Vivement que je me taille. Il en avait marre, des fois aussi, on peut en avoir marre. C'est vrai que c'est plus astreignant, mais c'est ainsi qu'il a pu mettre en pratique sa propre parole, aimez-vous les uns les autres. Aimez seulement ce qui est aimable, c'est facile. C'est pas, il n'y a pas besoin d'un commandement pour ça. Et quand il a créé son église, elle était communautaire au commencement, justement pour cette raison-là. Pour que nous puissions mettre en pratique cet enseignement, aimez-vous les uns les autres au maximum. Bien sûr qu'on peut aimer des gens qu'on ne voit jamais. Moi, j'ai retrouvé mon copain Yves Brugère, mais c'est génial. 43 ans qu'on ne s'est pas vu, je l'aime toujours. C'est mon bon copain d'il y a 43 ans. Ça me coûte quoi de l'aimer ? Moi, jamais. Il a eu des souffrances, j'ai eu les miennes, on ne les a pas partagées. Qu'est-ce que ça m'a fait vraiment une belle jambe de bois, hein, d'avoir une amitié comme ça. Heureusement, maintenant, on s'est retrouvés, et puis ça va être super. Mais pendant est-ce que ça veut dire que j'ai moins aimé pendant 43 ans ? C'était toujours mon ami. Mais voilà, on ne se voyait pas, on s'était perdu de vue. Aimez-vous les uns les autres. On peut le mettre en pratique, sinon ça ne sert à rien. C'est joli, ben oui, j'aime les Chinois. J'aime tout le monde. Et quand il a donc créé son église, il l'a créée communautaire. Et cela ne peut se réaliser, cet amour, que dans une vie pratique. Et c'est pourquoi, par exemple, nous vivons en communauté, pour pratiquer cette parole. Ça fait 30 ans cette année qu'on vit en communauté. Les premiers du début sont encore là. Pour pratiquer cette parole, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on y parvient toujours ? Réponse, oui. Oui, Combien de temps qu'on est marié, là, Michou? 30, on ne sait plus, hein, combien? 30, mon Dieu, ça fait 33 ans. 33 ans. Est-ce que tu m'aimes toujours? Oui, moi aussi. Et pourtant, est-ce que c'est rigolo tous les jours? Des fois, je ne suis pas un super, toujours, comment dire, sympa. Des fois, je suis énervé, des fois, elle aussi. Puis voilà, puis des fois, ça pince un peu. Mais je l'aime toujours. Eh bien, aimez-vous les uns les autres en communauté, c'est la même chose. C'est exactement comme un couple, comme une famille qui vit sous le même toit, comme une famille de gens responsables, désireux du bien des autres, puis qui ont des faiblesses. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est certainement moins fade qu'une vie d'église en randonnion, la vie communautaire. Alors, si vous aimez... Alors, c'est normal. Moi, j'en ai marre de ces relations avec ces gens. Mais c'est normal, c'est une fadeur. Alléluia! Ça va, frère? Oui, alléluia! Les anges du ciel chantent sur nos têtes, on reçoit des plumes. Alléluia! Ça va, ma sœur? Oh, oui! Vraiment, ça va? Oui, enfin, bon... Bon, ben... voilà, j'ai ça, puis comme ça, mais... Mais gloire à Dieu, ça va aller! Oh, oui, 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 il faut qu'on fasse, c'est la foi! Puis ça s'arrête là. Et puis on ne veut pas dire que ça ne va pas, parce que si on dit que ça ne va pas, on dit « Oui, mais la sœur, elle a perdu la foi. Elle confesse des choses négatives. » Parce que c'est superficiel. Vous voyez, il y a un fossé entre écouter l'enseignement et pratiquer l'enseignement. Pourtant, c'est pratiquer l'enseignement qui nous assure la vie abondante. La vie abondante. Alors, de tous les enseignements, pas seulement de l'enseignement d'aimer, mais de tous les enseignements, l'enseignement de s'aimer les uns les autres, c'est le plus basique. Après, il vient toutes sortes d'autres enseignements qui édifient la vie abondante sur cette base, justement, de l'amour. Notre vie, elle devient abondante, mais elle ne devient pas abondante parce qu'on écoute ou parce qu'on comprend. Ou parce qu'on met de l'argent dans la collecte. Il nous faut passer à l'action. Ce n'est pas difficile d'écouter la parole de Jésus, ce n'est pas difficile de la comprendre, même les enfants le comprenaient, c'est la mettre en pratique. Alors maintenant on a inventé les théologiens qui nous compliquent tout. Mais les enfants comprenaient Jésus. Comprendre Jésus pour avoir la vie abondante et non pas comprendre Jésus pour avoir un cerveau surdéveloppé, pouvoir parler au coin du feu dans les salons, de ces choses merveilleuses et profondes qui ne servent à rien du tout. Ça, c'est la théologie. Que les théologiens se bornent à traduire les Écritures et qu'ils arrêtent de nous enquiquiner avec leurs trucs incompréhensibles. Et... Bon, c'est bien, ça réjouit un peu l'intellect, mais bon. C'est la mise en pratique dans ce monde hostile qui est difficile. Alors, la plénitude, c'est quoi la plénitude? Toute la plénitude de la divinité en lui est en lui et nous nous trouvons associés à cette plénitude. À quoi? C'est quoi la plénitude? Eh bien, d'après le dictionnaire, la plénitude, c'est la totalité, c'est l'intégralité. Alors, écoutez bien. En Jésus était la plénitude de la divinité. Ça veut dire que en Jésus était la plénitude, donc, de Dieu, en qui se trouve l'univers, c'est-à-dire que tout l'univers trouve, c'est une unité. Tout ça, c'est en lui. Jésus était corporellement un tout miniature, quand il était dans son corps. Et c'est à ça qu'on est associé, lié à tout ce qui est créé et au Créateur lui-même, lié. Plus on est conscient de ce lien, plus on l'aime, plus on se donne, plus on pardonne, plus on grandit. Avec Jésus, vous êtes unifié dans tous les domaines de la vie, capable de vous épanouir vous. Chaque domaine du développement va enrichir un autre domaine. Alors, sentir la plénitude, c'est une chose impossible. Les gens qui prétendent sentir la présence de Dieu, sentir cette plénitude du Saint-Esprit. On peut ressentir un tressaillement, on peut, dû à la plénitude, on peut ressentir une émotion, mais pas ressentir la plénitude, nos sens n'ont pas été créés pour ça. On n'a pas à se sentir libre, on est libre. Parce que je suis toujours très étonné quand je vois des gens qui me disent qu'ils sentent, n'est-ce pas? Puis dans leur façon de vivre, ils ne sont pas libres, ils sont coincés. On n'a pas à se sentir, on a à être. Se savoir en communion avec Dieu, c'est plus important que de sentir sa présence. Se savoir en communion avec lui nous donne du courage, nous permet de nous mettre en marche. Et les obstacles deviennent des opportunités parce que l'intelligence, notre intelligence est renouvelée. Les épreuves deviennent des occasions de renaissance. Regardez ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Toutes les 3 semaines, le cœur lourd, je descendais avec ma voiture, des fois avec Michou, je descendais, on descendait en Suisse. On allait voir ma maman qui était en train de s'éteindre tout doucement. C'était dramatique de la voir comme ça. Ensuite, je remontais, des fois quand j'étais seul dans la voiture, j'étais complètement raplapla. Pendant 1 an et demi, toutes les 3 semaines, je rentrais découragé. Mais c'est à cause de cette épreuve que j'ai rencontré Marc Crozat. Les épreuves sont devenues des occasions de renaissance. Quand on se sait dans la plénitude, même si on souffre, on sait que cette souffrance, qui est une faiblesse, eh bien, c'est aussi une force, parce qu'elle nous aide à grandir, elle nous aide à évoluer, elle nous aide à élargir notre territoire spirituel et matériel. Parce que cette souffrance, elle nous aide à changer notre cadre de référence. La vie abondante, c'est pas avoir une belle voiture, j'ai rien contre les belles voitures. J'aime bien ma voiture. C'est pas avoir un château. Vous allez me dire, oui, c'est facile, tu dis ça, mais t'en as un. Oui, je le partage avec 40 personnes, c'est super. C'est pas avoir de l'argent. La vie abondante, écoutez bien, la vie abondante, c'est la vie abondante. Et par exemple, au sujet de l'argent, nous avons cet enseignement de Jésus. Nul ne peut servir 2 maîtres. Alors, quand on prend l'ensemble de l'enseignement de Jésus, pas seulement au sujet de l'argent, mais l'ensemble, alors on se met à relativiser l'argent. Il n'est pas notre maître, on en a un autre, son enseignement est bon, nous conduit dans la vie abondante. Il n'est pas notre maître, nous sommes maîtres au nom du Seigneur Jésus-Christ de l'argent. Ça veut dire quoi? Qu'il nous suit comme un petit toutou? Non, mais que nous n'en sommes pas les esclaves. Ça veut dire que nous savons que ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donnera, et que ce que Dieu voudra, ben c'est bon. Pas d'esclavage. Les victimes des faux prophètes sont esclaves de l'argent. On peut pousser des alléluia, des gloires à Dieu et tout ça. Ce sont des esclaves de l'argent parce que je les ai vus. Ils mendient. Ils mendient auprès de Dieu. Et puis aussi auprès de ceux qui ont de l'argent. Or, la Bible dit que le juste ne mendiera pas son pain. Quand on en arrive à mendier, c'est qu'il y a quelque chose qui a été faussé. Le juste n'a pas besoin de mendier. Dieu pourvoit à ses besoins. Comment? Écoutez-moi bien. Vous savez que je crois aux miracles. Vous savez que dans mon ministère, il y a eu beaucoup de miracles, et il y en aura encore beaucoup, si Dieu me prête vie. Comment est-ce que Dieu pourvoit à nos besoins? Rarement par un miracle. Rarement par un miracle. 99% de fois, c'est simplement parce que Dieu bénit notre travail, ce qu'on fait avec nos mains. Il tourne les circonstances en notre faveur alors que nous sommes en marche en train de travailler. Ensuite, Jésus nous donnant la vie abondante. Ça nous permet de nous libérer de l'inquiétude. La Bible nous dit, et Jésus dit, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais quand est-ce que ça nous sera donné par-dessus? Eh bien, quand celui qui pourrait s'inquiéter change de référence, c'est-à-dire quand il se met à s'occuper des choses du royaume de Dieu en premier avant de s'occuper de ses propres affaires, c'est-à-dire qu'il fait comme les oiseaux du ciel. Bon, ben, pourquoi est-ce que je vais me soucier? De toute façon, j'aurai toujours de quoi avoir ce qu'il faut. Si je travaille, Pas si j'attends le bec ouvert. Les oiseaux n'attendent pas le bec ouvert, hein, vous les avez vus? La vie abondante, au sujet de l'argent, nous permet de relativiser. Au sujet de l'inquiétude, la vie abondante nous permet d'être rassurés. Pour ce qui est de prendre des risques, d'oser se lancer, la vie abondante nous invite à avancer en pleine eau, en eau profonde, à oser prendre des risques basés sur la sagesse que donne la Bible, que donne l'enseignement. Relativiser, rassurer, entreprendre. La vie abondante nous conduit à aimer les autres. Parce que quand on relativise, quand on est rassuré et qu'on entreprend, on est beaucoup plus disposé à aimer les autres que quand on s'affole, quand on s'inquiète et quand on est en train d'être complètement paralysé devant les difficultés de la vie. On a beaucoup trop de problèmes déjà avec soi-même pour pouvoir prendre du temps pour s'occuper d'aimer les autres. Quand on est affolé, inquiet, en train de mendier, etc. Tu peux mieux aimer parce que tu t'aimes toi-même. Quand tu as conscience d'être dans ce plan de la vie abondante avec Dieu. Tu peux donc aimer en donnant, tu peux donc aimer en pardonnant. Et puis la vie abondante ne nous fait pas enfler d'orgueil. Elle nous donne l'humilité en nous invitant à ne pas nous glorifier, mais à découvrir la grandeur de l'abaissement. Jésus dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé ». La vie abondante nous conduit à servir. Et tout ça, ça nous pousse encore plus loin, parce qu'un développement dans un domaine nous aide à développer encore le domaine suivant. Rappelez-vous qu'on est unis à l'univers. Vous touchez une étoile, tout l'univers s'effondre. Tout ça, ça nous pousse à aller plus loin. L'abondance attire l'abondance. Alors, notre façon de vivre en relativisant le pouvoir de l'argent sur notre vie nous permet de cesser d'être inquiets et donc d'être rassurés. La vie abondante nous pousse à entreprendre, à aimer, à donner, à pardonner, à servir. Et ça nous apprend quoi? Le discernement. Parce que le discernement, on l'apprend dans l'expérience du vécu. Pas dans les bouquins. Un petit peu dans les bouquins. Dans les bouquins, mais c'est surtout dans le vécu. Il y a des gens et des choses qu'il ne faut pas servir. Il ne faut pas servir. Et c'est en regardant les fruits qu'on reconnaît l'arbre. On apprend. On apprend. Vous avez des fruits qui ont l'air délicieux, puis vous bouffez, ça c'est dégoûtant. Vous avez des fruits qui sont moches comme tout. Vous avez vu les, comment on appelle ça, les litchis, comme c'est moche. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est bon? Alors, on apprend à simplement ne pas croire parce qu'on a vu, mais aussi à apprécier parce qu'on accomplit un travail. Enfin, c'est vrai, il y en a qui n'aiment pas les litchis. Bon, enfin, c'est... Je vois Catherine qui fait... litchis. Bon, ben, prenez un autre fruit, je ne sais pas moi, celui que vous aimez, puis qui n'est pas beau. La noix de coco. C'est pas beau, la noix de coco. Hein? Vous n'aimez pas les noix de coco non plus. Bon, ben, enfin. Les kiwis, c'est pas beau, c'est tout poilu, mais c'est bon. Hein, y en a. Hein, les kiwis, ça fait l'unanimité. Bon, alors on oublie tous les autres exemples, on prend les kiwis. Mais c'est difficile de faire une parabole, hein, Python. Ça exerce notre intelligence, le fait d'entrer dans l'action, de mettre en pratique les paroles de Dieu, ça exerce notre intelligence. Alors nos décisions s'affirment de plus en plus, c'est-à-dire elles deviennent plus fines, plus justes. Le discernement nous donne le pouvoir de décider plus juste. Et puis, parce que vous en avez, ça leur est donné, hein, à la naissance, pouf, ils savent, tchoc, 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 mais moi non. Mais moi j'ai d'autres dons. Il y a des choses qui s'apprennent pour certaines personnes, puis il y en a pour d'autres, c'est inné, c'est comme ça. Comme pour les kiwis, il y en a qui aiment, puis il y en a qui n'aiment pas. Et puis, il y a une nouvelle chose qui apparaît alors. C'est les obstacles. Parce que quand vous ne bougez pas, ben, les obstacles, vous n'en rencontrez pas beaucoup. Hein? Les montagnes ne se rencontrent pas beaucoup entre elles. Les obstacles nous aident à persévérer, à chercher pour trouver le moyen d'être libre. Souvenez-vous de Jésus, tenté par le diable, rencontrant l'obstacle personnifié. Eh bien, il trouva le moyen de se libérer. Et la Bible nous dit, et le diable le laissa. Et le diable le laissa. Parce qu'il en avait marre. Les problèmes nous permettent de chercher dans la persévérance et la liberté arrive pour celui qui sait résister. Ah, résister. Et puis quand on résiste, on en arrive au point de se rendre compte que finalement, on a meilleur temps de tout remettre à Dieu parce que tout est en lui. Alors, c'est le lâcher prise. La vie abondante, c'est tout ça abondamment. C'est tout ça qui vous offre la joie. C'est tout ça qui vous offre la vie abondante. Ça comprend tout ça et ça nous permet de savourer la joie de la victoire, des victoires du passé, des victoires présentes, des victoires qu'on est en train de construire et des victoires qui ressemblent encore à des échecs mais qui bientôt vont être des victoires éclatantes. Ça nous permet de savourer. C'est pourquoi Jésus dit, voici je vous donne tout cela pour que, je vous dis tout cela pour que votre joie soit complète, soit parfaite. Et personne ne pourra vous ôter votre joie. Parce que ça sera à vous. C'est pas simplement un enseignement qui vous dit « Oh, c'est merveilleux ce qu'il a dit ce matin, ça m'a fait un bien. Est-ce que ça m'a fait du bien ce matin ce qu'il a dit le pasteur ?» Non, le bien que vous allez ressentir, c'est de savourer la victoire que vous allez pouvoir avoir en vivant ces choses. Ça donne de la joie que personne ne peut vous enlever. Ça, c'est à vous. La joie de la vraie vie abondante. Savourez cette vie. Elle est à vous, mes frères et sœurs. Alors, mettez-vous en marche. Alors, osez, et on va reprendre tous les mots, relativiser, être rassuré, entreprendre, aimer, donner, pardonner, servir, décider, chercher, résister et lâcher prise. Vous avez vu? On a fait le tour. Savourez tout cela dans le présent. Maintenant, n'attendez pas disant « Oh non, mais pour le moment, je n'ai pas le temps. » Si, maintenant, savourez ça. Profitez-en parce que bientôt, le temps n'existera plus. Aujourd'hui, je le sais, tu es une partie de cette plénitude. En lui, dans son corps, habite au présent, dans son corps, toute la plénitude de la divinité. Et toi, tu es une partie dans cette plénitude, mais tu es relié à tout, donc tu es partie de cette plénitude. Cette plénitude est en toi et tu es en elle. Jésus est tout. Il est l'inventeur du plan et il est le plan. Il a dit « Je suis le chemin ». Il est celui qui t'inspire pour que tu trouves ta place dans ce plan. Il est ta force qui te permet de matérialiser la fraction du plan qui t'incombe. Il est la responsabilité qui vient en toi, qui te conduit à être ferme dans les engagements que tu as pris vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi-même d'abord, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu. Il est celui qui sert de lien entre toi et tout ce qui existe. Il est la lumière, il est ta lumière, qui te rend lumineux, qui rend tes pensées, tes actes, tes paroles plus pures, de plus en plus pures. Jésus est aussi en train de se purifier. Vous me direz, ah bon ? Mais bien sûr, il est en train de se purifier. Tout est en lui, la plénitude de la divinité est en lui. Et c'est Dieu qui a créé le diable. Ben, il est en train de se purifier de ça. Il est en train d'éliminer ça, ça va être détruit. La mort qui est son dernier ennemi va être détruite. Vous voyez que lui aussi est en train de se purifier et d'éliminer toutes les choses qui sont mauvaises, négatives dans sa création. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous devenons de plus en plus purs. C'est pas d'un coup de baguette magique. Ah, ça c'est un évangile d'abondance, nunuche. Le plan de Dieu est de réunir tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre pour en faire une unité. Éphésiens 1:10. Il y travaille en toi, il y travaille avec toi, il y travaille par toi et par tout ce qui t'entoure. Et ça fait une unité. Tu es utile dans ce plan,
Tu dis, oh, je vois vraiment pas où. Ouais, ben, cherche pas, continue à vivre gentil, à mettre en pratique les paroles de Dieu que tu comprends. Mais sache une chose, moi je te dis, tu es utile. Tu dis, oh, mais je vois vraiment pas. Si, je te le dis, tu es utile. Bon, tu crois-moi un mot sur parole. Tu verras à la fin, tu diras, oh, je savais pas, Seigneur. Jésus, il est l'extériorisation de ce que tu es. Rien ne lui échappe dans sa propre plénitude. Il n'y a rien dehors de lui, voilà pourquoi rien ne lui échappe. Et si tu es vivant aujourd'hui, et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu es dans cette plénitude, tu ne peux pas y échapper. Alors rassure-toi, relève la tête, regarde-toi et accueille-toi. T'accueillir, c'est accueillir celui qui vit en toi, parce qu'il est en toi. Douter qu'il est en toi, c'est être du sel fou. Pour savoir ce que ça veut dire le sel fou, vous vous en référez à la prédication précédente. Alors va sans crainte, n'aie pas peur, que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni Seigneur Jésus pour ces quelques mots que je partage avec mes frères et sœurs. Merci mon Dieu de nous donner de pouvoir vivre la vie abondante, pas simplement être à la recherche d'un miracle d'argent, mais d'être, bien sûr, il y a des besoins d'argent. Les Africains ont des grands besoins d'argent, nous aussi on a des grands besoins d'argent. Mais Seigneur Jésus, tout le monde, et tu sais de quoi nous avons besoin, et tu as promis de pourvoir. Et Seigneur Jésus, nous te prions de pourvoir au travers de notre travail, quel qu'il soit, de nos activités, quelles qu'elles soient, et de bénir tout cela, d'arranger les choses, et de mettre tout en place, d'unir tout en une unité, afin que tout cela circule d'une façon juste, et que tous puissent être dans la joie et savourer ce qu'il est en train de vivre. Merci Seigneur Jésus. Merci de donner cette intelligence à tous ceux qui écoutent maintenant ce message. Amen.